On va, à travers les moments de réflexion de ce matin, poursuivre dans cette lignée du salut, le salut pour le monde. Un pécheur, saint et sauf, après avoir été avalé par une baleine à bosse au large du Massachusetts. C'était un des titres des faits divers qui étaient mentionnés dans le journal Le Monde du 16 juin 2021, il n'y a pas tellement longtemps de ça. L'histoire est incroyable, pourtant un témoin l'affirme et elle a été jugée crédible par les spécialistes aux États-Unis. En effet, un pêcheur de homards a passé un peu moins d'une minute dans la bouche du cétacé avant d'être recraché dans l'eau et être capable de partager son témoignage, de raconter son histoire. Alors vous l'aurez certainement deviné, c'est Jonas dont on va parler ce matin. Alors nous allons faire quelques lectures très courtes. La première dans le livre de Jonas, bien évidemment, au chapitre 1er et au verset 2. Jonas, chapitre 1er, verset 2. Et là, eh bien, nous lisons cet ordre que Dieu donne à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et puis, un saut, et nous allons lire au verset 5 de ce même chapitre. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et enfin, un dernier verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Dernier chapitre de l'évangile de Luc, chapitre 24 et au verset 46, où nous lisons Luc 24, 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48, vous êtes témoins de ces choses. On va rappeler brièvement le récit de Jonas après avoir cité ces quelques versets. Jonas, donc, prophète, est envoyé par Dieu vers la ville décadente de Ninive pour y annoncer sa sanction. Cependant, Jonas n'est pas désireux d'obéir à l'ordre de Dieu. Et plutôt que de se diriger vers la ville de Ninive, il va se diriger vers la ville de Tarsis, totalement à l'opposé. Et pour ce, il se dirige vers le port méditerranéen de Jaffa, ou Jaffa, appelé Joppé dans les Actes, et Jaffa aujourd'hui, pas loin de la ville d'Israël de Tel Aviv, israélienne de Tel Aviv. Alors il rentre dans le bateau, il s'installe, il descend dans le fond de la cale et tombe endormi profondément. Il pense échapper au regard de Dieu, mais c'est sans compter l'omniscience de Dieu, celui qui sait tout, et sans compter aussi ce que nous rapporte le livre des Psaumes au chapitre 139, les 10 premiers versets. Dieu voit tout, même jusque dans les profondeurs de la mer. Ainsi, peu de temps après, Dieu va envoyer une terrible tempête qui va menacer le navire et tous ses occupants. L'équipage est donc en péril. Et le capitaine paniqué, trouve et réveille ensuite Jonas dans le fond de la cale. Les marins tirent au sort pour savoir qui est le responsable de ce déchaînement de vagues. Et par la Providence, grâce à la Providence, le sort tombe sur Jonas, qui est pris par les bras musclés de marins, qui est jeté par-dessus bord. Il tombe à l'eau. Et c'est à ce moment-là que Dieu envoie un gros poisson qui va avaler Jonas. Et Jonas va prier Dieu en se rendant compte de son erreur pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Et c'est alors que le gros poisson, comme nous le savons très bien, va rejeter Jonas sur le rivage. Dieu va lancer un second appel à Jonas, le même qu'il a lancé au chapitre 1, verset 2. Et cette fois-ci, Jonas va obéir à l'ordre de Dieu. Il va se diriger vers les habitants de la ville de Ninive. Il va proclamer la sanction divine, mais à son grand dam, la population de Ninive va être touchée par son message et va se repentir. Et Dieu va donc renoncer à la sanction initiale qu'il avait prévue à l'encontre des habitants de la ville de Ninive, à savoir la destruction. Et cette compassion, cette mansuétude ne plaît pas du tout au prophète Jonas, qui se met à bouder à l'ombre des grandes feuilles d'une plante de ricin. S'ensuit la leçon de Dieu envers Jonas, qu'on trouve au chapitre 4, versets 10 et 11. « Je fais grâce à qui je veux. » Ça, c'est le message de Dieu envers Jonas. Quelques mots sur le contexte. Nous sommes au 8e siècle, avant notre ère, avant Jésus-Christ. Donc sous le règne du roi Jéroboam II. 2 siècles après le schisme qu'a connu le pays d'Israël. Jonas est donc prophète du royaume du Nord, ou du royaume des 10 tribus, ou du royaume d'Israël qui a conservé son nom. Ninive, à cette époque-là, est une grande ville, très grande pour l'époque, qui se situe au nord de l'actuelle ville de Mossoul en Irak. C'est une ville qui, selon Habacuc chapitre 2, verset 9, est remplie de richesses et d'objets précieux qui ont été le fruit, le résultat de... Comment est-ce qu'on appelle ça encore de je ne reviens plus sur le nom. De trésor de guerre, mais ça porte un autre nom. De butin de guerre, voilà, le mot exact. De butin de guerre. Merci. Et donc... Le dictionnaire biblique édition Emmaüs dit que la ville de Ninive était non seulement une ville où régnait la débauche, mais en plus de cela, c'était une ville sanguinaire. Les Assyriens prenaient leurs ennemis, leur crevaient les yeux, ou leur coupaient les mains, ou les pieds, ou le nez, ou encore les oreilles. Les Assyriens étaient les ennemis du peuple d'Israël. Et le contexte nous apprend que les 10 tribus du royaume du Nord, du royaume d'Israël, étaient sous le joug de l'Empire assyrien. Et le bisaïeul de Jéroboam II, roi contemporain au prophète Jonas, comme on l'a vu, comme on l'a rappelé, Jéhu avait déjà été contraint à payer un lourd tribut aux Assyriens. 60 ans environ après la prédication de Jonas, l'Empire assyrien envahira le royaume d'Israël, détruira Samarie et emmènera une bonne partie de la population captive en Assyrie. Alors, d'après ce contexte-là, on comprend mieux, sans vouloir l'excuser, le fait que Jonas n'avait pas envie d'aller à Ninive. C'est comme si Dieu avait demandé à un chrétien d'aller dans une grande ville en Allemagne, au plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Les dieux assyriens sont nombreux, et parmi eux se trouve le dieu Dagan, ou Dagon, que les Philistins connaissent et adorent également. L'expérience de Jonas qui a été rejetée de la bouche du poisson était-elle parvenue aux oreilles des Ninivites? Si c'est le cas, ils l'ont peut-être perçu comme un signe particulier, ce qui pourrait expliquer l'impact de la prédication de Jonas et la rapidité avec laquelle les Ninivites se sont convertis. Que tirer comme leçon pratique de ce récit de Jonas? Ce qui m'a frappé, ce qui m'a interpellé le plus dans l'attitude du prophète Jonas, en contraste avec le caractère divin, c'est son manque de compassion, son manque d'amour et surtout son indifférence envers les non-croyants. Son indifférence envers les non-croyants. Et j'ai noté cette définition simple de l'indifférence. C'est l'état d'une personne qui n'est pas touchée par quoi que ce soit, qui est insensible et que rien n'émeut. L'indifférence, insensibilité, le fait de ne pas être touché, le fait de ne pas être ému par quoi que ce soit. L'indifférence de Jonas ressort notamment en Jonas 1, verset 5, verset que nous avons lu tout à l'heure. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils se jetèrent dans la mer, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Et il s'endormit profondément. Alors que tous les membres de l'équipage, les marins, sont en péril, Jonas parvient malgré tout à s'endormir. Jonas paraît indifférent au sort de tous ces marins qui sont là. Indifférent. Et nous voyons aussi un petit peu plus loin, vers la fin du livre, dans un passage que nous n'avons pas lu mais que nous avons mentionné, au chapitre 4, versets 10 et 11, que Jonas se soucie davantage d'une plante de ricin qui dépérit que du salut des êtres humains, que du salut des habitants de la ville de Ninive. L'indifférence de Jonas. De nos jours, malheureusement, l'indifférence est plus présente que jamais. Indifférence devant la déforestation, par exemple. Indifférence face au réchauffement climatique. Indifférence face à la disparition en cascade de multiples espèces d'animaux. Indifférence devant la disparition d'espèces végétales. Indifférence devant les catastrophes naturelles, sécheresses, inondations, tremblements de terre et tous les sinistrés qui souffrent de ces catastrophes. Indifférence aussi par rapport ou devant les scènes de guerre qui nous sont proposées par les médias. Indifférence devant les épidémies dans le monde, les pandémies, sauf quand elles arrivent chez nous. Indifférence devant les familles qui sont déchirées. Indifférence devant les vies qui sont brisées. Indifférence devant la précarité. Tout cela touche de moins en moins notre société. Et j'ai récemment été, il n'y a pas que Gino qui donne des petites illustrations sur le football, hein. J'ai été interpellé par le comportement récent d'un joueur du Paris Saint-Germain. Vous l'avez certainement vu. Outre le fait qu'il ait été irrespectueux envers l'arbitre qui a fait preuve d'une grande clémence à son égard, il a fait un tacle plus que soutenu, plus que rigoureux sur un joueur de l'équipe adverse. Il a totalement, par la suite, ignoré ce joueur qui était par terre et qui se tordait de douleur. Pas d'excuse, pas une petite tape amicale, pas de poignée de main, rien que de l'indifférence. Rien que de l'indifférence. Les exemples d'indifférence sont malheureusement partout présents. Le désintérêt à l'égard de l'autre, le désintérêt à l'égard de ses souffrances, le désintérêt à l'égard de sa solitude, le désintérêt à l'égard de ses besoins. Le chrétien serait-il également atteint par cette indifférence ambiante? Lors d'une grande convention à Perth, j'espère que je prononce bien devant le professeur d'anglais, en Écosse, le célèbre missionnaire Hudson Taylor raconte qu'un jour, en voyageant de Shanghai, en allant de Shanghai à Ningpo, il fit la connaissance parmi les voyageurs d'un jeune Anglais qui avait vécu quelques années aux États-Unis. Bien vite, ils se lièrent de sympathie et devinrent de bons amis. Arrivé à destination, au port de destination, alors que Hudson se préparait à descendre pour y parler de Jésus et y distribuer des traités, il entendit soudainement un clapotement avec le cri d'un homme, le cri poussé par un homme qui tombait à l'eau. Alors rapidement, il s'est précipité sur le pont et il s'est aperçu que Pierre, le jeune chinois, manquait, n'était pas présent. Alors, cherchant de tous les côtés, en proie à l'angoisse, Hudson Taylor aperçut à quelques mètres du navire une barque avec des marins équipés d'un filet, tout juste ce qu'il fallait, précisément ce qu'il fallait. « Venez !» cria-t-il en reprenant espoir. « Venez vite, un homme est en train de se noyer !» Webin fut la stupéfiante réponse des marins. « Ça nous dérange. »« Comment cela? Mais dépêchez-vous, alors ça sera trop tard. »« Nous sommes trop occupés à notre pêche, » répondirent les marins. « Qu'importe votre pêche, venez seulement, venez tout de suite, je vous paierai bien. »« Ah, et combien est-ce que tu nous donneras ?»« Je vous donnerai $5, mais venez sans discuter. » Venez sauver la vie de cet homme, sans délai. C'est trop peu, crièrent-ils. Nous ne viendrons pas à moins de $30. Mais je n'ai pas tant d'argent. Je vous donnerai tout ce que j'ai, répondit Hudson. Et combien as-tu? Je ne sais pas, peut-être $14. Ils vinrent alors, et du premier coup, leur filet ramena le corps de l'homme perdu. Et tous les efforts qui ont été tentés pour rétablir la respiration de Pierre demeurèrent vains. Pierre était mort par la faute de l'indifférence de marins qui auraient pu si facilement le sauver. Et Hudson Taylor, de conclure devant son auditoire, se pouvait-il qu'il y ait sur la terre des gens si insensibles, des gens si indifférents, des gens si égoïstes. Mais Mais le corps d'un homme a-t-il tellement plus de valeur que celle de son âme? Le corps d'un homme a-t-il tellement plus de valeur que celle de son âme. Nous condamnons ces pécheurs de la mort d'un homme parce qu'ils pouvaient aisément le sauver et ne l'ont pas fait. Mais que disons-nous de ces millions de personnes qui nous entourent et qui meurent, et cela pour l'éternité? Et en effet, frères et sœurs, la question demeure. Serions-nous, chrétiens, devenus indifférents au sort de ces millions de personnes qui se dirigent vers une éternité de malheur, une éternité de souffrance, une éternité d'oppression, une éternité de remords? Vous savez, tous les prisonniers, sauf dans quelques cas extrêmes, espèrent tous un jour sortir de prison. Mais celui qui n'a pas reçu le pardon de Dieu, celui qui n'est pas au bénéfice du pardon de Dieu, celui dont Dieu n'a pas pardonné les fautes, passera l'infini du temps dans le puits sans fond d'une éternité sans Dieu. Cela nous laisse-t-il de marbre? Est-ce que cela nous touche? Ce qui manquait à Jonas, c'était la compassion qui caractérise la nature divine. Et de même aujourd'hui, si nous ne manifestons pas de compassion ni d'amour, eh bien, on ne peut être qu'indifférent au sort de nos contemporains. On ne peut être qu'indifférent au sort de nos contemporains. Ils ne compteront pas parmi nos priorités. Et si nous manquons d'amour, si nous manquons de compassion envers notre prochain, envers les perdus, demandons au Seigneur de nous en accorder. Le Saint-Esprit veut nous communiquer le fruit de l'Esprit qu'est l'amour. Plus nous considérerons, plus nous réaliserons l'amour dont Dieu nous a aimés et l'amour dont Dieu nous aime, plus nous serons remplis de cet amour et plus il jaillira envers les perdus. Plus nous considérerons l'amour dont Dieu nous aime à travers une relation intime avec lui, plus cet amour nous remplira et plus il jaillira autour de nous en faveur de ceux qui se perdent. Pour conclure, Dieu dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive. Dieu encore aujourd'hui nous donne cette même injonction. Lève-toi et va. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas non plus quelque chose d'uniquement souhaitable. C'est un impératif que Dieu nous donne et qui revient à beaucoup de reprises, à plusieurs reprises dans les Écritures. En effet, écrit Luc en Actes chapitre 13, verset 47, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. En commençant, bien évidemment, comme nous le rappelle Actes chapitre 1er, verset 8, en commençant bien sûr par l'endroit où nous sommes, par là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. L'ordre de Jésus d'aller n'est pas exclusivement réservé aux disciples, ou aux apôtres, ou aux premiers chrétiens, ou aux seuls évangélistes. Mais c'est aussi la mission qui qui incombe à l'Église de Jésus-Christ. Allez, c'est aussi la mission que Dieu me donne. C'est aussi la mission que Dieu donne à chacun d'entre nous. Allez. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. À Timothée chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, Dieu souhaite nous aider. Dieu veut nous utiliser comme des canaux de bénédiction qui déversons aux gens qui nous entourent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, sommes-nous indifférents au plan de salut que Dieu a pour tous les hommes? Ou bien une âme a-t-elle du prix à nos yeux comme elle en a aux yeux du Seigneur? Que Dieu nous aide à considérer cette responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, à partager autour de nous, là où nous sommes, à nos voisins, aux membres de notre famille, à nos collègues, à qui veut l'entendre, à chaque opportunité qui se présente à nous, ce message merveilleux que Dieu veut partager à l'humanité entière. Jésus sauve les perdus.